Bonjour, vous êtes bien sur Radio Galère 88.4. On est vendredi 6 octobre, il est 17h. Bienvenue dans la seconde partie d'une émission spéciale sous forme de discussion sur le rapport au travail et au non-travail, enregistrée à la DAR La MIFA le 3 septembre 2023. Je m'appelle Margot et j'ai coécrit et co-organisé cette émission avec Angèle et le collectif des chômeuses qu'on remercie très fort. On poursuit donc la deuxième partie de cette émission sur le thème du travail et du non-travail, en se questionnant plutôt sur les idées de travail-passion et de démission heureuse. On est toujours en présence du collectif des chômeureuses avec Dora et Céline, du collectif des travailleuses de l'Art 13 qui compte Colette et Alex, de l'équipe de l'émission Galère de Taf proposée par Lisa et Pauline, mais aussi d'Iman, invité surprise. Autour de la table, on a aussi Louise et Alex de Radio Galère. Vous pourrez retrouver cette émission et sa première partie sur le site internet de Radio Galère. Bonne écoute.
Je voulais aussi rebondir parce que tu parlais de travail-passion. Et quand on préparait l'émission avec Margot, on se questionnait un peu sur cette notion. Est-ce que parfois, tu as le sentiment que... Enfin, vous avez le sentiment, même d'ailleurs, peut-être vous, je ne sais pas si ça peut vous concerner aussi, que ton travail-passion, c'est un peu l'alternative, mais à double tranchant, c'est-à-dire... ça te passionne, mais du coup, tu travailles 24 heures sur 24 parce que tu es tout le temps stimulé par ton art, etc. Enfin, je sais pas si vous en discutez parfois entre vous aussi dans votre collectif ou...
Alex, du collectif des travailleuses de l'art.
Le fait d'être artiste, que ce soit, je sais pas moi, plasticien, photographe, graphiste, j'en sais rien. Enfin, tout ce que tu peux mettre dans le champ de la culture, qu'il soit salarié ou... C'est quand on... Je pense qu'on n'arrive quand même pas là par hasard, comme dirait l'autre, et que c'est vraiment un choix. Et c'est le piège, moi je l'ai ressenti dans les boulots que j'ai occupés, le piège vraiment de tu t'investis peut-être trop, et donc le fait tu te fais gentiment déboîter ou dépecer vivant par un truc, et peut-être en vieillissant, en ayant eu peut-être ces expériences de cacher pendant des mois pour aller mieux et compagnie, de dire après, en fait, en vieillissant et en ayant cette expérience-là, malheureusement il faut en passer par là pour se dire, en fait, le boulot c'est le boulot, ouais, mais après, hola quoi, on va se détendre 5 minutes, que ce soit par le salariat aussi, ou par la pratique artistique. Quand, retour d'expérience que j'ai eu il y a peu de temps encore, je facture à un taux, moi, qui est le mien, qui est donc largement dans la cote des photographes actuels. On me dit, c'est cher. Il n'y a pas de problème. Vraiment. Ben, à un moment, tarif, c'est ça. Donc, je ne vais pas maintenant me dire, ben non, finalement, ça, c'est pas... Non, je vais te faire moins, parce que... Quand... Non, en fait, c'est ça. Et par le travail salarié, c'est pareil. Il ne faut pas trop... Ça doit être une passion... mon tarif c'est ça, mon tarif journalier en salariat c'est ça, ça marche pas, c'est plus compliqué, mais voilà, c'est travail passion, il se limite. Oui, je suis content de me lever le matin quand je fais les photos, que ce soit pour des trucs perso, que ce soit pour des résidences quand ça tombe, parce qu'on est beaucoup dessus, que ce soit le salariat aussi, en fait je suis content, oui, c'est un choix, je l'assume, il n'y a pas de souci, mais à un moment donné, stop, basta.
J'ai une suggestion de Louise. Tout ça fait quand même écho à l'espace qu'il y a entre vie privée et vie professionnelle. Enfin, c'est vraiment lié au fait qu'on ne peut pas changer et que quand on fait un travail prenant, un travail auquel on tient, ça nous impacte personnellement, quoi. Vous en pensez quoi ?
En tout cas, ça rejoint, j'ai l'impression, ce qu'on disait sur métier passion, parce que quand le travail c'est ta vie et ta vie c'est le travail, tu te dis, bon, y a pas de distinction entre les deux. Et ça peut être OK quand tu le vis bien. Là, je vais parler au nom de peut-être des métiers de la culture et vous pourrez parler des autres. Mais peut-être dans le milieu associatif, c'est un peu pareil parce qu'on dit aussi que c'est un métier passion et que tu mets du toi dedans, quoi. Tu mets du tien, tu t'investis à fond. Et ça peut être OK qu'il n'y ait pas de scission. C'est-à-dire que parfois, tu as une lecture et tu dis « Ah, ça me fait penser à ça ». Parfois, tu te réveilles en pleine nuit et tu écris un truc et ça peut être OK. C'est aussi peut-être, pas l'avantage là, de faire des insomnies, mais en tout cas de ne pas avoir un boulot rythmé de 8 à 18, mais sinon ça peut être une énorme douille juste pour, en tout cas le métier passion, de juste faire travailler gratuitement, bénévolement, et de se dire que c'est comme ça, au moins je fais ce que j'aime. Et parfois, tu peux aussi changer dans ta vie et te dire, là je préfère avoir une scission entre ma vie pro et perso, je travaille, et comme ça quand je rentre, j'ai les idées claires, parce que parfois quand tu fais quelque chose qui est tellement prenant, et moi c'était mon cas avant, je travaillais dans un musée, j'adorais ce que je faisais, je lisais beaucoup pendant la journée, je me disais, super, je suis payée pour lire finalement, mais en fait je rentrais à la maison, je pouvais plus voir un bouquin, je faisais que regarder des films ou des séries en rentrant, j'avais plus la force de sortir, ou alors je faisais que sortir à fond, enfin, et du coup, parfois c'est avantageux de mêler les deux, parce que comme ça t'enrichit mutuellement, le travail s'il te plaît, il t'enrichit personnellement, et vice-versa, si t'es bien, ton travail est enrichi, et parfois t'as juste besoin de fermer l'ordi à 17h, et enfin, je sais pas si ça répond à ta question, mais...
Et en même temps, ça montre à quel point, mais en fait, on a un soi pro qui c'est, on n'existe pas en deux fois, quoi. On est la même personne le matin et le soir, enfin, entre guillemets. Et donc, tu veux rebondir sur ça un peu, j'ai l'impression. Mais...
Je me souviens, avec Lisa, on a eu pas mal ces discussions de. En fait, parfois, le travail, c'est vraiment ça, c'est genre mettre une sorte de cap de second moi. En fait, il y a plein de boulots. Et en fait, tous les boulots qui sont les plus débiles, c'est ça, quoi. C'est, on adopte une espèce de double personnalité où on commence à raconter des conneries à notre taf et en étant persuadé que, je sais pas, par exemple, quelqu'un qui est commercial pour vendre des chiottes, eh ben, d'office, il va adopter un autre lui et ce sera totalement en désaccord avec sa vraie personne, je pense. Et c'est très bizarre, ça. Et en fait, ça, c'est nuisible pour le monde, je pense. En fait, si t'as...
Pour rebondir, je pense que si on imagine une société sans travail capitaliste, alors il n'y aurait pas deux mois. Je pense que le travail ferait partie de la vie, parce que tu le disais, faire son travail domestique, c'est du travail. Tout potentiellement, reproduire ses conditions d'existence, enfin, tout ça, c'est du travail. Mais en fait, dans une société capitaliste, le travail, pour moi, est en dehors de la vie. Enfin, pour une grande majorité de personnes, enfin, j'ai l'impression que c'est un privilège de faire un travail passion. C'est un privilège de pouvoir être un seul moi, au travail comme dans sa vie, en fait. Et je sais plus exactement où je voulais en venir avec ça, mais oui. Et en même temps, c'est vrai que, bah, du coup, dans une société capitaliste, le fait de faire un travail, que ce soit un travail passion, un travail vocation comme dans l'associatif, en fait, c'est aussi dangereux, parce que t'as vraiment une exploitation de l'engagement qui arrive très très vite dans les milieux associatifs. Ben, te plaît pas, c'est pas l'usine, on parle très bien. Et en fait, ça peut. Enfin, moi, je sais que j'ai beaucoup de potes qui bossent dans la culture, parce qu'on a fait des études qui, voilà. Et j'ai vu beaucoup de dont un peu Popo aussi à certains moments, de personnes se faire complètement exploiter pour un objet social où, en fait, t'as l'impression que si tu réclames des droits, tu le fais au détriment du public ou des usagers ou des bénéficiaires, parce que l'asso, elle est toujours dans la merde, on n'a pas les moyens d'eux. Et en fait, le fait justement de pas faire cette séparation entre ton toi, parce que t'es intimement convaincu du bien fondé, de l'éthique, de la nécessité de ce que tu fais, et en fait, ça te met dans des positions qui sont intenables et où tu finis par t'auto-exploiter même dans ce truc-là. Et ça peut être dangereux aussi, quoi. Donc oui, c'est chouette. Et moi, je souhaite à tout le monde de faire un travail qui est épanouissant et qui a du sens. Et en même temps, dans les conditions matérielles actuelles, il y a des dérives qui sont auxquelles il faut être vraiment vigilant, quoi, pour l'avoir vu plusieurs fois aussi, ouais.
Aussi la pression à la productivité dont tu parlais avant, Dora, c'est aussi quand le travail c'est toi et toi c'est ton travail, c'est que du coup c'est ça, quand tu fais rien pendant un temps, enfin tu fais pas rien déjà, et puis en plus tu as une pression énorme, et ça revient aussi un peu parce que tu parlais de Netflix, du coup ça m'a fait rire, parce qu'il y avait aussi je crois que c'était un article sur Le Monde qui s'appelait qui avait parlé du RSA and chill, comme le Netflix and chill, comme si on pouvait être au RSA et chiller. Mais en fait, si on avait déjà un salaire à vie, comme le propose très bien Bernard Friot et Réseau Salaria, en tout cas un revenu qui nous permettait de vraiment faire des activités qui ont du sens, on pourrait chiller et on pourrait travailler et on n'aurait pas cette... Et en fait, ce serait une sorte de logique décroissante aussi, c'est-à-dire cette pression, auto-pression ou pression sociale à la productivité, c'est de faire quelque chose d'utile, vite, il faut que je monte ma boîte, il faut que je monte ma start-up, il faut que je fasse quelque chose, alors que bah, si on faisait tous un peu moins déjà, on n'aurait pas un rythme capitaliste, productiviste, extractiviste dément, et on ferait des choses plus sensées, je pense.
J'ai failli faire une blague pendant que tu parlais, tu disais... enfin bref, ah bon, vous êtes anti-capitaliste. Il y a aussi un concept de la surproduction. Et du coup, c'est aussi pour ça qu'on se dit, ben en fait, on va arrêter de faire ce truc néfaste, parce qu'en fait, on participe à surproduire. Et du coup, voilà. Et du coup, on voit aujourd'hui que, bah, avec par exemple les bullshit jobs de Graeber et toutes ces idées-là, qu'en fait, on occupe les gens, quoi. Et ce que tu disais, exprimer aussi. et que du coup ouais, et aussi là on fonce un peu dans le mur environnemental etc et que en fait si on chillait justement on, et qu'on arrêtait de surproduire ou de se forcer à faire des trucs un peu nuls, ça, ça irait un peu mieux et en fait j'étais surprise de rencontrer cette idée dès 1880 dans le droit à la paresse de Paul Lafargue. Donc ça fait 150 ans qu'on dit ça quoi. C'est quand même pas ça fait bizarre. Et j'avais une autre idée mais j'ai oublié donc c'est pas grave.
Un exemple concret, je bossais en tant que spécialiste dans la pollution de l'air et tout ça. J'ai jamais pris autant l'avion de ma vie qu'avec mon boulot, quoi. Et là, depuis en fait, que je suis au chômage, mon empreinte carbone a significativement diminué.
J'ai retrouvé un truc qui m'est revenu sur le travail passion. Depuis que j'ai quitté mon taf, etc., donc je n'ai jamais été payé pour une activité que j'ai faite. Et j'ai fait pas mal de choses assez différentes. Et parfois, je me suis posé la question, en fait, quand même... j'ai vraiment pas de thune, c'est chiant, est-ce que je n'essaierais pas un peu de me faire rémunérer? Et j'ai un rapport en fait à ça hyper compliqué, où du coup quand je parle à Pôle emploi des vrais trucs que je fais qui m'intéressent, ça me bloque dans ces trucs-là, parce que en fait, j'ai l'impression que ça le dénature. J'ai l'impression que si je commence à essayer d'inclure des activités qui me plaisent, que j'ai envie de faire et que font du sens pour moi politiquement, etc., et que à partir du moment où je commence à dire ah tiens en fait j'ai besoin de le payer et peut-être qu'il faudrait que je mais j'ai l'impression que j'ai les deux natures et du coup je me suis arrêté quoi enfin et j'ai pas avancé sur ces trucs là et j'ai fait d'autres je suis parti faire d'autres choses et ouais c'est un... et vraiment du coup en fait j'ai l'impression que je dis des trucs à Pôle emploi j'essaye d'avancer etc enfin genre dis enfin sur ces sujets là pour avoir le truc à leur dire et en même temps c'est des trucs qui m'intéressent mais je me suis vraiment auto-bloqué sur ça. Et mes autres activités, ça va mieux et j'arrive à...
Pôle emploi, ce que tu veux faire, que tu fais à Pôle emploi, ça dénature, c'est des cases qu'ils connaissent pas ? Ou c'est des trucs qui sont pas en rapport avec ce qu'ils attendent de toi ou le boulot que tu faisais avant c'est... Parce que moi, je leur ai dit que j'étais photographe, ils ont adoré, ils ont dit, bah, c'est génial.
Oui, mais
je leur ai vendu le truc de manière... je sais pas, ils ont compris, mais...
Ouais, non, mais non, moi, je...
C'est une question là, comme ça, mais...
Bah, en fait, mes activités sont assez éloignées de ce que je pouvais faire avant, aujourd'hui. Et du coup, quand je leur dis, par exemple, je vais faire des... Je vais parler de ce sujet-là, je vais donner des cours, etc. Et en fait, je fais déjà des ateliers avec des personnes, et bah, en fait, on trouve des gens, j'en discute, et on se retrouve avec les personnes qui ont envie. Mais du coup, c'est vraiment cadre, même pas d'assaut, tu vois, c'est juste petit à petit, on rencontre des gens, et on se dit, tiens, on va se retrouver. Et du coup, bah, totalement dans l'informel, et on fait ça à la maison, on fait ça dans les collectifs qui viennent nous prêter. Et c'est chouette, mais du coup, aucun cadre d'argent, aucun cadre... Et du coup, je dis à Pôle emploi, bah, peut-être que je vais faire cette activité-là, développer pour me faire rémunérer, du coup, trouver des institutions qui vont pouvoir me rémunérer, etc. Donc là, en particulier, ouais, je pensais à des écoles ou des universités. Et en fait, j'ai jamais vraiment eu la force d'y aller, quoi.
Pôle emploi aime bien quand on fait des business plans. T'as pas fait de business plan ?
Oui.
Truc de droite, non ? Droite.
C'est ça ? Bah, c'est ce que je me suis refusé à faire, ouais.
Quand ouais, t'as l'impression d'institutionnaliser tes envies profondes et tes désirs, et du coup, ça perd de son sens complètement.
Ouais. Ouais, en fait, là, je reviens sur ça et je me dis, ok, bon, ce truc-là, peut-être que je vais vraiment avancer dessus, peut-être que ça finira par se faire un petit peu, et peut-être que j'accepte un petit peu de cette contrepartie, quoi. Mais en tout cas, ça m'a travaillé pendant pas mal de temps.
Ça me fait penser juste à des résultats d'enquête que j'avais menées avec mon collectif qui s'appelle Polynôme, et c'était sur les conditions de rémunération des personnes dans la culture. Et on avait mené une enquête auprès de 167 personnes avec le statut ou non d'artiste auteuriste, et on leur demandait s'ils faisaient des compromis éthiques ou non pour avoir ou non du travail, parce que parfois tu te dis, ok, là j'ai des problèmes de sous, je vais essayer de bosser pour telle ou telle personne ou vendre tel ou tel truc, mais est-ce que tu respectes tes propres engagements? Et la majorité du cas, bah, c'est oui, quoi, il doit faire des compromis éthiques. Donc c'est comme tu dis aussi, parfois tu as envie de faire des activités qui sont juste, bah, voilà, qui sortent d'un cadre institutionnel, et à ce moment-là, bah, comment le quantifier, et si tu as envie de le faire dans ton coin, bah, ce ne sera pas rémunéré. Et si tu veux être rémunéré, tu vas peut-être devoir faire des compromis à bosser pour certaines institutions qui ne respectent pas tes engagements. Et ça, c'est vraiment le piège aussi des métiers passion aussi. C'est soit tu restes dans la pureté militante et tu ne gagnes pas d'argent. Après, c'est une vraie question qu'on se pose aussi régulièrement. C'est à quel point on doit peut-être se contenter de moins d'argent et du coup de moins collaborer avec le diable, ou parfois il faut juste prendre l'argent où il est et pas se sentir trop mal par rapport à ça, sinon on s'auto-flagelle tout le temps, et c'est un rapport vraiment délicat, quoi. Il n'y a pas de, réponse.
Merci Colette et à toutes et à tous pour vos remarques super intéressantes sur les idées de travail-passion et de pouvoir être quelqu'un de constant dans la vie et au travail. Vous êtes toujours sur Radio Galère 88.4 pour la seconde partie d'une émission spéciale sur le travail et le non-travail avec le collectif des chômeuses, le collectif des travailleuses de l'Art 13 et l'équipe de l'émission Galère de Taf. On va faire une petite pause musique avec la super chanson des Acédiques d'Anne Sylvestre. A tout de suite.
Mais qu'est-ce qui nous fabrique avec leurs acédiques? Il paraît qu'ils sont pas contents, mais qu'est-ce qui leur prend? Je les rencontre rue Bergère, il y en a qui exagèrent. Sur le trottoir j'en vois qui pleurent, j'ai pas mes heures. Ils bossent une heure, ça en fait 12. Qu'ils s'étonnent pas qu'on les jalouse. Qu'ils soient chômeurs, moi ça me résiste, ils sont artistes. C'est eux les intermiteux, les intermutants, les interminables. Tout en comme des clignotants, un coup t'es brillant, un coup t'es minable. J'aurais pas cru que de faire le con, ça soit un métier pour de bon. Mais qu'est-ce qui nous trafique avec leurs acédiques? Paraît même qu'il y en a qui trichent, remplissant leurs fiches. Tous ceux qui passent à la téloche, ils s'en foutent plein les poches. Sans doute que ceux qu'on voit jamais, ils sont mauvais. Et toujours, toujours, ils se plaignent. Moi, je trouve ça mériterait des beignes. Ils ont qu'à se lever le matin, comme les copains. C'est eux les intermiteux, les intermutants, les interminables. Tout en comme des clignotants, un coup t'es brillant, un coup t'es minable. J'aurais pas cru que de faire la fête, ça vous donnait des points de retraite. Voilà type qui se syndique, vu que leurs acédiques, ils y comprennent pas grand chose. Ils en tiennent une dose, ils font la queue pendant des plombes. Des fois, il y en a qui tombent, ils ont jamais le papier qu'on veut, ils refont la queue. Je te le dis, moi faudrait qu'on me paye pour aller mendier mon oseille, même que souvent ils la reçoivent pas avant des mois. C'est eux les intermiteux, les intermutants, les interminables. Tout en comme des clignotants, un coup t'es brillant, un coup t'es minable. Faut croire que les coups de pied au cul, c'est remboursé par la sécu. Qu'est-ce qui nous panique avec leurs acédiques? V'là qu'ils se mettent à faire la grève. Non, alors là, je rêve. Suppose que tous ils abandonnent, ça dérangerait personne. Y'aurait que des jeux à la télé, ça serait le pied. Remarque, ils se laissent pas abattre, ils s'en vont jouer dans des théâtres. Je vois vraiment pas qui c'est qui ira payer pour ça. C'est eux les intermiteux, les intermutants, les interminables. Tout en comme des clignotants, un coup t'es brillant, un coup t'es minable. Je parie que tordu comme ils sont, ils vont même en faire des chansons. C'est eux les intermiteux, les intermutants, les interminables. Tout en comme des clignotants, un coup t'es brillant, un coup t'es minable.
Bon, là, on a bien constaté que le monde de l'emploi, c'est un peu pourri. Enfin, vous me dites si je résume mal votre pensée, mais globalement, c'est ça, le monde du travail, et voilà. Mais du coup, pour parler peut-être de choses un poil plus joyeuses, peut-être, j'aurais bien aimé qu'on aborde la notion de démission heureuse, parce qu'on en parlait avec Dora, et toi, tout à l'heure, un petit peu avec ton cas, tu vas démissionner, si j'ai bien compris. Et moi, je trouve ça très courageux, mais j'ai l'impression que de nos jours, parfois, la société, la pression sociale, etc., te fait dire que démissionner, c'est pas une très bonne idée, parce que tu vas perdre ton emploi, etc. Mais du coup, voilà, je sais pas si chez les chômeuses, vous défendez, entre guillemets, cette notion.
Je vais signer une rupture conventionnelle, normalement. Okay. C'est pas exactement la même chose.
D'accord, ok.
Ouais, j'aurai le droit au chômage. Mais okay. C'est une négociation qui fait que j'aurais bien aimé partir il y a plus longtemps, mais j'ai négocié pour... voilà. Donc là, je subis mes derniers mois de travail. Mais,
force.
Du coup, ce n'est pas exactement la démission. Et c'est assez bien reçu quand même. En tout cas, de mes amis, tout le monde est en mode « Oh, tu vas voir, ça va être super le chômage. »
Bah, trop bien.
Enfin, tout le monde sait que ça va me faire énormément de bien. Et je l'ai bien tourné auprès de ma famille qui est de droite. Mais...
Moi, juste un petit complément, parce que pour moi, le truc de démission, ça va vraiment avec un CDI. Enfin, ouais, je veux dire, avec un poste sur le long terme. Dans une société à l'heure actuelle où on n'a que des postes courts, enfin des contrats courts, moi, je sais que je n'ai pas démissionné officiellement. Mon contrat, c'est fini. Et après, j'ai cherché des autres boulots qui ne sont pas venus et tout ça. Et que du coup, là, dans ce sens-là, je n'ai pas eu la démission officielle. Par contre, moi, ce qui m'a fait trop du bien et ce qui a été libérateur, alors le 9 mars, parce que c'était le lendemain de la journée du droit des femmes, là, j'ai envoyé un mail, en fait, de 8-9 pages à mes 400 collaborateurs internationaux, où là, en fait, j'ai expliqué clairement pourquoi aujourd'hui, une femme, une jeune femme de 36 ans, avec une expérience européenne dans la recherche et tout ça, en fait, elle claque la porte et elle part. Et là, bon, les trois raisons, c'était vraiment l'instabilité, les conditions inacceptables de travail et de rémunération et tout ça, et des comportements inéthiques de la part de certains professeurs. Et en fait, je veux dire, là, pour moi, cette lettre-là, elle était méga importante et ça m'a fait du bien. Et en fait, je demandais clairement, parce que je donnais des conseils pour les jeunes, pour les moins jeunes. Et en fait, elle a circulé dans au moins 6-7 pays, dont même en Nouvelle-Zélande. Et au final, j'ai eu plein de retours très positifs et ça m'a vraiment confortée dans ma décision de partir. Du coup, pour moi, il y a la démission et après, il y a vraiment comment on l'a fait. Je pense que ça peut être aussi important.
Mais j'ai l'impression que maintenant, quand on démissionne, on touche plus le chômage après.
Ça n'a jamais existé.
De quoi ?
La démission n'a jamais touché permis de droit d'accès au chômage.
Non. Non, ah oui ?
L'indemnité, jamais. Non.
Du coup, il y avait une espèce d'entourloupe à une époque de faire soit un abandon de poste, ce qui équivalait à une faute grave ou lourde, je ne me souviens plus, qui donnait accès au chômage. Voilà, c'était l'entourloupe. Et il y avait des trucs de rupture conventionnelle, mais c'était un truc complètement déguisé, mal... C'était pas illégal et c'était pas légal non plus, mais du coup ils ont validé qui est validé depuis quelques années sur la procédure de rupture conventionnelle. Et je crois qu'ils veulent y revenir parce que beaucoup de gens se barrent de cette façon-là et que ça leur coûte un fric monstrueux.
Et ce que j'ai vu aussi, reprenez-moi, c'est que si c'est la fin d'un CDD et que l'employeur propose un CDI, et ben en fait on peut pas avoir le chômage parce que c'est ce qu'ils sont en train de mettre en place. Là, tu dis oui, est-ce que tu veux prendre le micro d'ailleurs?
Oui. Bon, ouais. Moi c'est Imane, je suis spectatrice aujourd'hui. Ouais. Oui, c'est ça en fait, si on te propose pas, tu n'as pas le droit au chômage, tu n'as pas non plus le droit à la prime de précarité je crois, si derrière ils t'ont proposé un CDI et que tu as dit non, parce que peut-être ça ne te plaisait pas, tu n'as pas le... d'aide ou quoi que ce soit.
Ça montre à quel point en plus on peut pas que c'est de plus en plus compliqué de sortir du monde du travail et que de ne pas vouloir travailler mais quand même avoir des ressources, c'est encore plus compliqué quoi.
Moi j'ai une petite anecdote par rapport à ça qui nous avait fait beaucoup rire à l'époque. Et pareil, en fait, j'avais une amie qui bossait dans une boutique de fringues, un truc à la con de vêtements pour bourgeois, quoi, et donc elle n'en pouvait plus. Et elle était en CDI et du coup elle voulait partir et elle avait prévenu sa responsable, heureusement, qui était plutôt cool, sauf que la chaîne faisait pas de rupture conventionnelle. Et du coup, soit elle démissionnait, elle avait pas de chômage, soit cette histoire d'abandon de poste, ça marchait plus. Et donc, il fallait qu'elle fasse une faute pour pouvoir... en gros, se faire virer, mais quand même avoir le chômage. Alors du coup, avec sa responsable, elles ont monté tout un truc. Elles ont regardé la liste des fautes qu'elles pouvaient faire. Alors soit il fallait qu'elle arrive bourrée, soit il fallait qu'elle l'insulte. Enfin, c'était des trucs hyper absurdes. Et en fait, elles ont fini par se mettre d'accord. Où, du coup, ma pote a intentionnellement volé un vêtement. Et du coup, elle a essayé de faire ça. Puis sa responsable lui a dit « Ouais, mais en fait, il n'y a pas de preuve. » Du coup... ça marche pas. Donc ma pote a dû voler un vêtement et envoyer un SMS à sa responsable en disant « Je t'informe qu'aujourd'hui je suis partie avec un t-shirt que j'ai volé et que je ne rendrai pas. » Et pour être sûre, elle est revenue avec le t-shirt en portant le t-shirt au taf la fois suivante pour que vraiment il y ait une preuve qu'elle ait volé ce t-shirt. C'était complètement absurde et heureusement que sa responsable était de son côté et que sa respo avait envie de l'aider à pouvoir partir en touchant son chômage. Mais du coup, c'est où est-ce qu'on doit en arriver pour pouvoir décider de ne pas travailler et de quand même avoir des revenus derrière. C'était lunaire, quoi. Donc on en arrive vraiment à des trucs. Et au final, ça se termine bien parce que donc, elle a pu être virée. Elle touche son chômage. Mais si elle était tombée sur n'importe qui d'autre, en fait, elle aurait juste pas pu partir. Elle aurait pas eu de revenus après. Et donc, c'est vraiment rendre le chômage de plus en plus inaccessible. Et ouais, comme tu dis... Quand tu enfin, puis en fait quoi, si tu te fais harceler au travail, si t'es hyper malheureux dans ton taf, enfin, c'est vraiment, enfin, ça devient de plus en plus compliqué de choisir de ne pas travailler, quoi.
Puis politiquement, t'as peut-être pas envie de vendre des fringues de riches pour des vieilles bourgeoises, quoi.
Oui, voilà, c'est ça. Au bout d'un moment, t'en as marre.
Mais dans une grande institution marseillaise, il y avait ce truc de faire des abandons de poste. Vraiment, c'était institué que non, il y aura pas de rupture conventionnelle. Parce que vous vous rendez compte, vous êtes là depuis 6 mois, ça va nous coûter un fric fou, et non, c'est tu donnes pas de rendez-vous, tu dis pas où tu vas, tu reviens pas, et on attend 3 semaines. Et tout le monde le savait, il y a pas de problème, c'était vraiment génial.
Mais là c'est pareil, je crois qu'elle pouvait pas faire d'abandon de poste, parce que du coup ça marche plus, mais une des fautes c'était des absences répétées et non justifiées. Mais donc pendant plusieurs mois elle a dû faire ça, il y a des jours où elle prévenait pas, elle venait pas, mais du coup sa responsable le savait, mais en fait elle me disait je perds trop de thunes, parce que du coup je suis pas payée, ils veulent toujours pas me virer, et là je suis en train de perdre un fric monstre à faire des absences, enfin c'est une galère de ouf en fait, de juste pouvoir quitter ton taf et d'avoir du chômage pour lequel t'as cotisé, comme tu disais, en fait c'est pas un cadeau, c'est un droit, quoi.
Ouais, du coup, comme tu disais récemment, maintenant ça marche plus parce qu'ils considèrent que tous les abandons de poste sont automatiquement considérés comme des démissions. Et du coup, c'est passé assez récemment et c'est assez fou. Et le truc de l'abandon de poste, ça marche. C'était du coup, comme tu disais, une façon d'avoir. C'est une forme de faute qui, du coup, était assez grave pour que tu sois viré, mais pas assez grave pour que tu n'aies pas droit au chômage. Et il y a des entreprises qui te viraient pas et qui te mettaient son salaire à zéro. Et du coup, en fait, tu te retrouves avec zéro, avec un contrat de travail en cours, et du coup, aucune... Et en fait, ça marche, parce qu'en général, les entreprises ne sont pas horribles, et au bout d'un moment, ils font, bah, en fait, elle n'est pas là, on clôture. Et en fait, eux, ça leur fait moins de taf comptable aussi, c'est-à-dire tous les mois, ils doivent faire et t'envoyer une fiche de paye, etc. Mais il y en a qui sont suffisamment gros pour se dire, on préfère le faire chier que accepter l'abandon de poste, quoi.
C'est chaud. Et du coup, voilà mon analyse. Non, mais en mode, du coup, en fait, la démission heureuse, ça n'existe plus, en fait. Non ?
Oui, alors, du coup, je vais rebondir sur la démission heureuse. Déjà, je vois que, bah, comme tu disais, enfin, je ne sais plus laquelle de vous deux a dit, ouais, on a grave bien accueilli la démission. Enfin, dans mon entourage, ben, moi, moi aussi, genre, dans mon cercle, c'est vrai que parfois, du coup, on voit qu'on a créé une culture où, justement, en fait, enfin, je pense que voilà, vous partagez ça, ou quand une personne qui dit c'est bon, j'ai quitté mon taf, et tout le monde dit bravo, super, et tout, allez, je te fais, c'est ma tournée, enfin voilà. Et du coup, bah, voilà, je pense que là, c'est le début de la démission heureuse, quoi. Et après, j'ai envie de dire que, bah, enfin, rebondir sur ce qu'on disait, que c'est une façon de récupérer son temps, récupérer sur ah, bah, qu'est-ce que j'ai envie de faire, et que du coup, c'est en ça qu'elle est heureuse, quoi, c'est réussir à ok, bah, en fait, de quoi, enfin, je me pose la question de qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie. Et ça va peut-être prendre un peu de temps, mais au moins mon temps il est un peu libéré et je vais faire des trucs chouettes, quoi.
Donc ça, ouais, serait c'est ça. Mais c'est parce que, par exemple, ouais, ça me fait penser, j'ai le cas d'une amie à moi qui récemment a démissionné d'un boulot où vraiment elle avait une manageuse horrible et elle pleurait tous les soirs en rentrant chez elle. Et j'étais en mode, mais ma fin, quitte ton taf, tant pis, tu retrouveras quelque chose assez rapidement et tout. Mais il y avait vraiment ce truc de, ouais, mais là si je pars, j'ai plus d'argent pendant un moment, j'ai pas le droit au chômage, j'ai le droit à rien en fait. Et en fait, bon, elle a quand même eu le courage, parce que je trouvais ça quand même courageux quand t'as vraiment besoin de sous, de quand même quitter ton travail pour, voilà. Et c'est vrai qu'on a eu un peu la même réaction, en mode, mais en fait, meuf, c'est trop bien. Enfin, bon, c'est horrible, là, c'est stressant parce que t'as pas d'argent, mais tu vas retrouver quelque chose. Heureusement, elle a retrouvé quelque chose après et ça se passe mieux aujourd'hui pour elle et tout. Mais c'est horrible, quoi. Enfin, d'avoir ce dilemme-là et tout ça. Et en plus, enfin, je dis pas qu'à tout âge, c'est hyper grave, mais là, c'est quelqu'un qui vient de finir ses études et sa première expérience de taf, c'est ça, quoi. Enfin, et du coup, j'étais en mode, putain, on part vraiment très, très mal, là. Mais bon, là, ça va mieux, mais voilà, quoi.
Et sur les façons de débloquer les droits au chômage, c'est un truc que j'ai pas expérimenté, mais, parce que je sais pas à quel point c'est facile ou pas, et que moi j'en ai pas eu besoin, donc je me suis pas motivé à le faire. Mais pour les personnes qui peuvent pas faire une rupture conventionnelle ou quoi, et qui du coup doivent démissionner et du coup ne pas avoir leurs droits, le moyen c'est de faire une mission courte de juste derrière, un contrat court, et du coup, en fait à la fin d'un CDD ça débloque les droits, enfin ça ouvre les droits. Et du coup ça peut être ça, une mission d'intérim ou un CDD, mais encore faut-il trouver une personne qui veut bien faire un CDD pendant une période pas trop longue, quoi. Mais sachant que ça, du coup ça repousse encore le quand est-ce que je vais enfin avoir du temps, ouais. que à la fin d'un CDD est calculé tes droits au chômage, sont calculés tes droits au chômage, si, comme tu as dit tout à l'heure, il n'y avait pas la proposition de CDI, ce qui arrive quand même plutôt souvent. Et du coup, si tu as un CDI, tu quittes ton CDI, tu n'as pas de droit au chômage parce que tu as démissionné, enfin si tu fais une démission, et pour les débloquer, tu fais un CDD court ou une mission d'intérim, un truc comme ça, et ça peut permettre de débloquer les droits. Voilà, c'est ça que j'ai pas précisé, c'est que voilà, c'est les droits sur toutes les périodes que tu as travaillé sont comptabilisés, mais il faut les débloquer, et pour que ce soit pris en compte, c'est ça.
Mais moi, du coup, j'ai une question pour vous, vous tous. Moi, je considère que j'ai jamais travaillé, j'ai fini mes études l'année dernière, j'ai pas accepté le travail qu'on me proposait, donc j'étais en recherche, on me proposait une thèse qui me plaisait pas, j'ai dit non. J'ai vu tout le monde autour de moi évoluer, même des amis qui avant déjà travaillaient, au bout d'un an ou deux ans. Il y a eu beaucoup de cas comme ça, de managers qui sont abusifs, et du coup, est-ce qu'on démissionne ou pas ? Moi, je me sentais mal de ne pas avoir de travail, puis j'ai trouvé un mini CDD, et je l'ai fait parce que ça ne durait que 4-5 mois, je ne voulais pas m'engager. La retraite va être très tard, j'ai 40 ans devant moi à travailler. Je ne sais pas, c'est trop quoi la solution ? On parlait des métiers passion, des métiers vocation, des comment... Enfin, une des seules choses qui me donnait un petit peu envie, c'était de créer une asso avec ma pote et mettre pour refaire du corail dans les océans. J'ai l'impression que les seules choses qui me motiveraient, ce serait un peu de créer mon truc, mon asso ou quoi. Et à vous, là, dans vos travails, si vous avez, qu'est-ce qui vous donnerait envie de travailler, quelque chose pour lequel vous serez vraiment content, ou est-ce qu'il faut juste un peu abandonner cette idée qu'on peut vraiment être heureux au travail ? Parce que là, moi, les 40 prochaines années, me donnent pas trop envie. En plus, on parle de comment c'est difficile d'en sortir, etc. Enfin, c'est genre, j'ai vraiment envie de travailler, mais je sais que j'ai pas envie d'y perdre ma santé mentale. On a tellement d'exemples autour de nous sur ça. Et quels seraient vos conseils ou vos trucs, en tout cas, si vous avez répondu partiellement à la question, des choses qui vous allègent un peu l'esprit, vous donnent un peu plus envie d'aller au travail, enfin les solutions quoi.
Pour ma part, déjà, c'est pas retourner dans un travail à 35 heures. Je pense que c'est le temps de travail qui joue pour beaucoup. Enfin, je me dis. Si je dois après me réengager dans un travail, il faut que je trouve un 25 heures et que je me débrouille autrement. J'ai créé un statut artiste autrice pour d'autres petits trucs et je me dis avoir un équilibre entre... Enfin, je sais pas. Pour moi, c'est ça, mais j'avoue que je sais pas. Hein. J'ai pas la solution, mais en tout cas, c'est pas passer du lundi au vendredi enfermé avec un patron qui me demande de faire des trucs. Pour moi, c'est la question, c'est le rapport au temps. Pour moi, c'est ça.
Ouais, moi, je suis vraiment d'accord sur cette réduction du temps de travail. Et après, bon, enfin, moi, j'ai encore un an de chômage, strict minimum. Mais je sais, enfin, perso, là, moi, je regarde beaucoup les ONG, environnementales, nanana. Et enfin, c'est quand même vraiment important d'avoir un boulot qui soit en accord avec mes convictions personnelles. Par contre, ce que j'ai vraiment peur et ce que j'ai déjà fait cet été, c'est vraiment du burn-out. Et je sais mon potentiel, à une fois quelque chose qui m'intéresse, je vais y aller à fond. Cet été, en fait, même dans le milieu militant, bénévole et tout ça, j'ai reproduit exactement le même schéma que j'avais fait dans le milieu professionnel. Et en fait, je veux dire, c'est là-dessus, je sais que je suis encore en train de travailler là-dessus personnellement. Et je me dis, tant que je ne serai pas mieux capable de balancer les choses et pas de m'investir à fond, à dépenser toute mon énergie et tout ça, je ne vais pas retoucher un travail qui m'intéressera vraiment et qui me passionnera. Après, enfin oui, voilà, moi je sais que là je suis en reconversion, enfin bon, longue ou lente, mais voilà, il y a vraiment la réflexion de qu'est-ce que je veux faire. Et des fois je me dis juste, bon en fait, je me trouve un 20 heures par semaine qui paye plus ou moins bien, plutôt bien. C'est quelque chose que j'envisage aussi après, enfin, c'est vraiment balancé personnel, professionnel, il faut le trouver, il faut être réaliste et, c'est tout ça.
Je rebondis ce que tu disais sur la réduction du temps de travail, que ce soit par la loi ou par le choix personnel. C'est un truc important. Quand j'ai dit à mes collègues, ah, je reprends un boulot à 35 heures, ils m'ont dit, ah, tu vas pouvoir faire tes trucs à côté. Je dis, ben non, je sais que non, j'aurai moins de temps en tout cas dédié pour le faire. Après, c'est un espèce d'équilibre à trouver entre, plutôt que d'aller picoler comme un trou, c'est travailler sur son projet, mais des fois c'est compliqué. Voilà. Il y a aussi l'assommoir du travail qui arrive à tout ça, où il faut picoler quand même pour tenir 35 heures.
Ben moi, je suis assez d'accord. J'ai pas du tout de réponse et c'est des questions que je continue de me poser complètement. Je pense que déjà, moi j'ai eu une petite évolution dans ma perception du travail. Je pense que j'ai un peu abandonné l'idée que je vais réussir à trouver un travail dans lequel je vais m'épanouir complètement, qui sera le reflet exact de mes convictions et de mes engagements. Enfin, je pense que ça, c'est un peu un truc que j'ai abandonné. Ça a été un peu douloureux au début, mais en fait, là, aujourd'hui, je me suis un peu détachée de ce truc-là, tu vois. Et pour autant, je pense que je supporterai pas de faire un travail qui va vraiment à l'encontre de ce en quoi je crois ou que j'estime être vraiment néfaste, tu vois. Donc, c'est trouver un équilibre. C'est pas évident, hein, mais moi, ce que j'essaye de faire, c'est trouver un équilibre entre un taf où j'ai l'impression qu'il est pas trop... déjà, qui n'est pas destructeur, c'est déjà bien, en vrai, tu vois, et qui a un peu de sens, entre du temps et de l'argent. C'est un peu ça, tu vois. Je pense que j'arriverai jamais à trouver un truc parfait entre tous ces trucs-là, mais si ça me laisse un peu de temps, que je suis pas trop en galère financièrement et que le taf est pas trop dégueu éthiquement, c'est déjà bien. Tu vois ce que je veux dire ? Et je pense que oui, et d'abandonner aussi certaines attentes et de me dire j'accepte que c'est ailleurs que je vais pouvoir trouver certaines choses. Et je pense aussi alterner, je pense, des périodes d'activité et d'autres périodes de chômage. Enfin, tu vois, même là, j'ai l'impression d'avoir trouvé cet équilibre-là dans mon taf. Pour autant, j'ai pas envie d'y rester 10 ans. Donc, je pense que c'est essayer d'alterner un peu. Et c'est toujours un peu naviguer dans tous ces équilibres en fonction des périodes de ta vie, de ce que, enfin, tu vois. Mais j'ai pas de réponse claire et absolue, hein, du tout.
Bah, une des réponses ou des solutions qui arriverait pas tout de suite et qui serait politique, et je vais encore parler du salaire à vie, mais en fait si on était payé en fait, c'est la différence aussi entre juste le chômage qui te paye pour t'aider à retrouver de l'emploi et un salaire au travail, enfin en tout cas une rémunération qui te considère comme dans tous les cas travailleuse et qui te considère comme productrice ou non de quelque chose. Et si toi justement tu as envie de t'occuper du corail, tu pourras le faire parce que tu sais que dans tous les cas tu fais quelque chose et t'es payé pour. Et c'est aussi sortir de cette logique de l'aide en fait dans laquelle on nous met quand on est au chômage, et si on nous verse un salaire à vie du coup qui correspond en fait à des activités quelconques qu'on pourrait mener. Je pense que ça nous enlèverait tellement de pression et tellement de culpabilité, tellement de ça aussi, comme tu disais, cette pression de trouver le taf qui reflète tes engagements, etc. Mais ça, malheureusement, c'est quelque chose qui va mettre du temps ou qui ne m'arrivera jamais parce qu'on est de plus en plus dans un état facho. Mais après, des solutions à court terme, ouais, je ne sais pas.
Mais ouais, moi je te rejoins assez. Enfin, je pense que ça, c'est des solutions très individuelles de court terme. Mais je pense que sur du long terme, enfin, moi, je crois beaucoup en la lutte collective. Tu vois, je trouve que ça donne du sens aussi. Et je pense que si on veut vraiment solutionner sur du long terme, ça passera par... par des vraies luttes sociales et collectives. Ça, je pense que dans un horizon plus lointain, de toute façon, pour moi, c'est pas mal là où ça se situe aussi, quoi.
Bah justement, ces idées de lutte collective, ça nous donne une super transition parce qu'on voulait vous demander quelles revendications et quelles idées vous défendiez dans vos collectifs ou individuellement. Mais d'abord, on va s'écouter RSA de Rock. À tout de suite.
C'est pas dans le sofa, nique le salarié. Laissé comme panda, fêté comme Dora. Sophie, c'est ton coussin, je me hisse. Je bois mon coca dans mon calice. Ouais, sois pas trop pressé, je zone dans les abysses. Je fasse un max, j'ai pas l'amour du risque. Et je fais ce qui ne baille pas l'emploi. Je zone toujours quand il faut pas, y'a. Fané, cané, pas là. Et on a fait le taf sans compta. Si on a besoin, on pétaille, y'a. J'suis plus là, j'ai les chaussures qui pleurent. Me suis pas levé, j'ai pas vu l'heure. Je mets le matin, je mets le patron, j'ai mon temps, l'heure. Me bougerai pas le cul, j'ai trop à faire. Tant j'ai le matin, tant j'ai le oh là là là. Je ferai ce qu'il me plaira. La cave, c'est mon sugar daddy. Oh là là là. J'suis pas prêt de me sortir les doigts. Ça fait 6 mois, j'mange que du riz. Zéro dans le sofa, nique le salarié. Laissé comme panda. J'ai le drip d'un opossum, wow. Un New York qui pue l'opium, maman. Connais pas le mot curriculum, nana. J'ai pas le temps, mais c'est tout comme j'écoute pas les gna gna gna. Et moi j'suis saoulé, maman qui ferait le match, pas le temps pour le cash. On est calé, je suis ta détache, fais bail à l'arrache. J'suis saoulé, que des double dash, souris sur les flashs. J'ai un kawaii, tous les autres vite match, demain on se fâche. Oh là là là, j'ferai ce qu'il me plaira. J'veux dormir jusqu'à midi. Oh là là là, j'ai affaire, me réveille pas. Je slip sur mes ennemis. C'est pas dans le sofa, nique le salarien. Les yeux comme panda, feuté comme Dora. C'est pas dans le sofa, je graille mon tabac. Attends le 5 du mois pour toucher mon RSA. C'est pas dans le sofa, nique le salarien. Les yeux comme panda, feuté comme Dora. C'est pas dans le sofa, je graille mon tabac. Attends le 5 du mois pour toucher mon RSA.
C'était la chanson RSA de Rock. Vous êtes toujours sur Radio Galère 88.4 en compagnie du collectif des chômeuses, du collectif des travailleuses de l'art 13, de l'équipe de l'émission Galère de Taf et d'Iman, special guest. Comme on disait avant la pause, on va maintenant parler de vos collectifs respectifs, de ce que vous défendez, de vos revendications. Et puis vous pourrez peut-être nous dire aussi où est-ce qu'on peut vous retrouver.
Moi, je dirais juste dans la façon d'écrire chômeureuse avec un H, y a déjà toute une revendication qui est là.
Bah, peut-être juste rapidement, alors du coup, ouais, on a des revendications très claires et on est aussi en train de les formuler. En fait, on fait aussi des réunions, des ateliers revendications, comme on les appelle, pour en fait formuler des revendications qui seront ensuite portée en fait si possible au niveau d'abord municipal, local, régional. Et en fait c'est aussi de prendre conscience que par la lutte collective, on finit par avoir une voix, et en fait ça commence petit à petit à essayer de trouver peut-être des élus, des personnes qui peuvent faire porter ça au niveau politique, même si on a de moins en moins confiance malheureusement dans ces instances. Il faut quand même les utiliser pour que ça ait ensuite un poids, et c'est ce que fait aussi l'ABUSE, le collectif l'ABUSE notamment, à avoir des liens directement avec des partis pour faire porter en fait des revendications, notamment sur la rémunération, le droit au chômage chez les artistes auteuristes. Et c'est ça aussi dont il faut prendre conscience, c'est que bien sûr on se réunit entre nous et c'est déjà trop bien de pouvoir faire des AG et de militer ensemble, mais en fait ça peut mener vraiment quelque part, et ça peut mener à un changement sociétal. Donc c'est pour ça que c'est bien de se rassembler. Et donc oui, on peut venez nous voir. Bah, vous pouvez aussi nous rejoindre à nos AG tous les
deux de chaque mois, sauf quand ça tombe un week-end. On le fait, parce qu'on travaille pas le week-end. On le remet au lundi ou mardi. C'est toujours à 18h avec des lieux différents. On essaie de trouver des lieux copains pour faire ça. Et il y a aussi tout un volet qu'on a développé. Je pense qu'on va continuer à développer durant l'année. Sur vraiment aussi les ateliers, enfin moi je suis assez partisan de ce truc-là, des ateliers d'aide, je sais pas, administrative, quid de l'URSSAF, comment on fait avec la CAF, comment monter un statut d'artiste auteur qui soit cohérent, qu'on ne fasse pas avoir après toute la chaîne de conséquences administratives lourde à gérer et pénible, que personne ne comprend. Donc voilà, moi c'est un truc que j'aime bien faire. Voilà.
Est-ce que vous avez une adresse mail, un endroit où les gens peuvent vous retrouver?
Alors oui, on a un magnifique compte Instagram qui s'appelle Travailleuse de l'art 13, qui est très bien mis en page, sublime. Et on a aussi une adresse mail qui s'appelle travailleuse-de-l'art13@protonmail.com. J'ai un doute. Moi, les autres camarades ont fait des petites permanences, des petites veilles sur le site, enfin sur l'adresse mail. Et s'il y a des demandes collectif pour nous retrouver, s'il y a des demandes personnelles pour vous faites qu'un jour tel âgé, soit on renvoie vers l'Insta où on fait des stories, où on fait des publis. Et après, s'il y a des questions un peu plus techniques, on peut y répondre au maximum de nos compétences.
Et du coup, bon, vous êtes en majorité des artistes et des gens de la culture, et votre collectif, quelle forme il prend?
Je dis bêtise, on n'a pas donné de forme vraiment. Est-ce que c'est un collectif? C'est pas une asso, ça c'est sûr. C'est un regroupement de gens qui font des trucs. Et c'est essentiellement des artistes auteurs, ou des gens qui bossent dans des structures culturelles.
Okay.
Voilà. Pour l'instant, on s'est limité, en tout cas, limité peut-être le mot, on s'est concentré sur nos spécificités d'artistes autoristes. Voilà.
Ouais. En tout cas, vous vous donnez de la force entre vous.
Et... Ouais, on essaie un peu de se démêler. Et vraiment, il y a tout un volet aussi, revendication locale. Comment on peut faire on a quelques petites idées. Tiens, est-ce qu'il y a tant de... Il faudrait qu'on fasse une petite recherche. Il y a combien d'artistes sur Marseille maintenant? Est-ce qu'il y aurait besoin? Est-ce qu'il y a un besoin de comment gérer peut-être des ateliers de la ville plus vastement, ouvrir des ateliers pour les artistes à des coûts relativement honnêtes, sans forcément dépenser 300 balles.
Atelier des espaces.
Des espaces pour les artistes qui soient un peu promus par la mairie. Enfin, y a des, on, je suis en train un peu de disséquer la loi avec un collègue pour savoir comment on pourrait faire pour obliger la mairie à proposer, s'il y a un local vide par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire. Tiens, plutôt que de faire un truc, je sais pas moi, sur Marseille gourmande, ce qui est très bien, mais on peut avoir un truc. Tiens, est-ce qu'il n'y a pas un besoin pour tel collectif de faire un... voilà. des est-ce ateliers que... en tant qu'asso, en tant qu'artiste, il y a peut-être des choses à faire là-dessus. Mmh. En tout cas, nous, c'est quelque chose qui nous asticote un peu pour pouvoir avoir une activité concrète où on puisse vraiment travailler et pas forcément que chez soi avec trois bouts de ficelle.
Et ce qui est important aussi, c'est la convergence des luttes, et c'est pour ça aussi qu'on rencontre d'autres collectifs, Comte d'Armanin, Marseille Logement, etc. C'est parce que voilà, quand on parle des espaces d'atelier, voilà, ça pose aussi les problèmes de gentrification, d'accès au logement, etc. Mm-hmm. Et donc nous, on parle d'un point de vue culturel parce que c'est le nôtre, mais après, on vise vraiment à créer une sorte de convergence et de parler de d'autres sujets avec d'autres collectifs.
Oui, c'est intéressant de collectiviser les espaces de création qui, en fait, aujourd'hui, le milieu de l'art, ça peut être un milieu où on peut se retrouver un peu isolé ou être tout seul et tout.
Bien
ça,
sûr.
Mais aussi qu'on soit pas perçu comme ah ben il y a les artistes, ils veulent faire le truc que de leur côté. Qu'on soit pas, parce qu'il y a toujours, enfin, Colette le dit très bien, c'est de dire on n'est pas que des gens qui veulent le tout en fait. On sait très bien que il y a d'autres graves problèmes sociétaux à Marseille, on n'est pas dans notre coin juste crêché pour notre paroisse. Même si on a nos revendications propres à nos pratiques, à nos métiers, à notre truc quoi, on est aussi on n'est pas que des bourgeois qui veulent des ateliers pas chers. Voilà.
Non, parce que pour rappel, plus de la moitié des artistes auteuristes en France vivent en dessous du seuil de pauvreté. Donc quand on dit que c'est un luxe d'être artiste, ça rejoint la notion de RSA and Chill. Il faut pouvoir vivre aussi en dessous du pauvreté. Est-ce qu'on peut dire que c'est un choix? Je ne sais pas. En tout cas, voilà, les artistes ne sont pas des petits bourgeois.
Nous, en soi, on ne s'inscrit pas vraiment dans un collectif précis, donc en termes de revendications, c'est plus individuel. Je pense que l'idée avec l'émission radio, c'est plutôt de discuter du travail, de faire évoluer un peu les représentations autour du travail, c'est déjà super important. Je pense même en parler à ses collègues de taf, en parler autour de soi et réfléchir collectivement à faire changer un peu notre rapport au travail, notre vision du travail. Après... moi, à titre individuel, je suis pas mal allée à l'AG Interpro. Je crois que Popoté allait beaucoup à l'AG Culture aussi. Enfin, voilà, essayer de se mettre ensemble, de se mettre en lien et de créer de la convergence aussi, carrément, quoi.
Nous, c'est Galère de Taf sur Radio Galère et c'est tous les derniers lundis du mois à 18h.
Pour les chômeureuses, on peut vous retrouver le lundi matin, c'est ça? Vous faites votre rentrée quand, comment? Où est-ce qu'on peut vous retrouver, en gros?
Notre rentrée se passe demain, lundi 4 septembre, à partir du coup à 10h à la DAR. Et en gros, tous les lundis, à partir de 10h à la DAR, pour un petit moment collectif. Et après, on peut aussi nous retrouver sur le site de la DAR. Il y a ladar.com, je crois, /chômeureuse. On a une petite page à nous. Et on peut nous écrire, alors on n'oublie pas le H de heureuse, à chômeureuse@protonmail.com.
Oui, moi je voulais... Merci du coup. Et je voulais aussi essayer de répondre à ta question pour les chômeureuses, donc la question des revendications. Comme je disais, je crois tout à l'heure, nous on n'est pas. On ne sait pas exactement ce qu'on est. Du coup, peut-être que le truc, en tout cas, je pense qu'il fait le plus consensus, qui est le plus évident, c'est notre aspect entraide et sociale. Et du coup, il y a aussi pas mal de personnes quand même qui sont intéressées par faire. Donc les questions politiques, faire du militantisme sur ces questions-là pour défendre nos droits et aussi faire, comme vous le disiez, faire des liens sur la question du travail où on voit que nous on s'est dit waouh, il y a des liens à faire avec les personnes sans papier qui sur la question de la loi Darmanin, la réforme du lycée professionnel qui est vraiment encore mettre des très jeunes au travail et les guider vraiment sur un truc obligatoire et en plus les jeunes en lycée pro donc plutôt défavorisés. Donc, envie de faire de tous ces liens-là. Donc voilà, du coup, je dirais que chez nous, on n'a pas des revendications claires parce que n'y a pas de consensus, sur la volonté, mais on s'est retrouvé quand même avec plusieurs, donc je m'inclus dedans, à vouloir réfléchir à ça. Et en fait, je crois que j'ai un peu oublié ce qu'on... Du coup, on n'a jamais vraiment écrit, donc on n'a jamais... À part arrêter de nous faire chier... je pense que ça, on sera d'accord sur ça. Ça sera ça notre question. Arrêtez de nous faire chier, laissez-nous tranquille. On est clair sur ça. Après, voilà, il y a l'idée de revenus, salaire à vie, etc., qui nous intéresse grave, même si je suis pas forcément au clair et je pense qu'il y a des avis divergents au sein de chez nous. C'est un truc, c'est pas vraiment de revendre une question, mais ça rejoint aussi la question de notre ami tout à l'heure sur quelles solutions, etc. Et je pense que nous, un des trucs qu'on a, moi je verrais ça, et on est plusieurs dans notre collectif à l'être. Et du coup, je pense que, comme disait Céline, on n'est pas forcément fermé à faire des compromis, etc. Moi, j'ai passé par une phase de rejet depuis. Je me dis, ah, mais peut-être pourquoi pas en fait, retrouver un emploi si ça passe. Pour l'instant, j'ai pas vraiment cherché, j'ai pas vraiment trouvé. Mais je pense qu'en tout cas, nous, on défend vraiment ce truc de la débrouille, de OK, réussir à part à l'entraide, à réussir à vivre et à développer nos activités, qui sont du coup du travail, mais pas dans l'emploi. Parce que on s'en sort à ça, parce qu'on fait de la récup, parce qu'on fait de la chourse, parce qu'on fait. Y a des personnes qui vivent en squat, parce qu'on mutualise les loyers, parce qu'il y a des mutuelles, parce qu'il y a plein de trucs. Et du coup, développer aussi ces trucs-là.
Il y a quand même quelques alternatives, ça veut dire que tout n'est pas à jeter, peut-être, alors. C'est peut-être le mot de la fin. Mais du coup, peut-être on peut conclure, sauf si quelqu'un a un dernier coup d'éclat, genre time to shine, c'est maintenant, quoi. Si jamais, ok, bon. Ok, voilà. En tout cas, merci beaucoup à tout le monde d'avoir participé. Personnellement, j'ai appris plein de choses grâce à vous, donc je suis grave contente. Merci beaucoup d'être venus et tout. Et merci à la DAR, du coup, de nous avoir laissé... leurs locaux pour qu'on puisse enregistrer cette émission. Et voilà, je sais pas si... Allez,
vous êtes toujours sur Radio Galère 88.4. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis pour cette émission spéciale sur le rapport au travail et au non-travail, écrite et organisée par Margot et Angèle, en collaboration avec le collectif des Chômeuses. Vous pourrez retrouver cette émission et sa première partie sur le site internet de Radio Galère. Bon week-end, on vous laisse avec Chômeur Branleur des Vulves Assassines.
Mais arrêtez, arrêtez par pitié. Chômeur Branleur, tu n'es jamais à l'heure. Chômeur Branleur, regarde ta mère, pleure. Chômeur Branleur, tu n'es jamais à l'heure. Chômeur Branleur, regarde ta mère, pleure.
Burnout, burnout, tu te crevais.
Management trop planning, harcèlement et brainstorming, licenciement, corps social, travail dominical, suicide salarial, précarité, pause café, j'aime ma boîte, j'aime les stats, vive les cadences infernales.
Burnout, burnout, tu te crevais.